Giuliano D'Ampoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et ancien conseiller politique de Matteo Renzi. Vous dirigez un think tank, le think tank qui s'appelle Volta. L'Italie s'enfonce donc dans une crise politique majeure. Giuseppe Conte a renoncé dimanche à former un gouvernement après le refus du président Sergio Mattarella de nommer le ministre des Finances choisi par la coalition anti-système. S'agit-il d'une surprise ?
Oui, c'est-à-dire que le processus de formation du gouvernement 5 étoiles Ligue était quand même très avancé. Donc on s'attendait qu'il puisse y avoir des problèmes au niveau de la rédaction du programme ou sinon même au niveau de la désignation du futur Premier ministre, mais on s'attendait quand même moins qu'il y ait un blocage de ce type sur le nom d'un ministre. Aussi parce que c'est dans ce cas, et ça c'est quand même un cas inédit dans l'histoire politique de l'Italie, le président a refusé de nommer le ministre de l'économie qui avait été indiqué par la coalition qui voulait former le gouvernement, ce qui par contre s'était déjà produit. Les présidents de la République avaient déjà refusé de nommer certaines figures dans certains cas.
Lesquelles ?
Notamment l'avocat de Berlusconi en 94, quand il gagne les élections, il se présente chez le président de la République de l'époque et il dit « Mon avocat, Cesare Previti, personne assez discuté en Italie, sera ministre de la Justice. » Et là, le président de la République lui dit « plutôt pas hein. ». Mais là, justement, comme ça s'était toujours fait, Renzi a eu le même problème, d'ailleurs, avec un ministre qu'il voulait nommer. La coalition politique fait un pas en arrière et indique une personne différente. Et là, par contre, vu qu'on a affaire, effectivement, à des mouvements, disons, beaucoup plus violemment anti-système qu'avant, ils ont poussé l'affrontement institutionnel au plus haut niveau. Ils ont refusé d'indiquer une autre personnalité. Et donc, le gouvernement n'a pas pu être formé.
C'est une forme de quitte ou double, puisqu'il va donc y avoir de nouvelles élections. C'est mécanique, c'est obligatoire, Giuliano D'Ampoli.
Aujourd'hui, le président de la République va nommer un autre Premier ministre qui va former son gouvernement, va se présenter en face du Parlement à la recherche d'un vote de confiance. Mais ce que l'on peut quand même imaginer, c'est qu'il n'aura pas la majorité lors de ce moment de ce vote de confiance. Donc il n'aura pas de majorité au Parlement, ce qui est indispensable dans un système parlementaire comme le système italien. Et donc, oui, il pourra gouverner pour les affaires courantes pendant quelques mois. On ne vote pas en Italie en été, ça n'a jamais été fait avant. Mais on peut quand même imaginer, c'est la solution la plus probable, qu'il y ait un vote à l'automne, je dirais presque sans aucun doute.
Ce vote en automne, il est difficile, bien entendu, aujourd'hui, de le prévoir avec précision. Ce que l'on peut dire, c'est que 55% des Italiens aujourd'hui considèrent que ça n'est pas à Bruxelles de former le gouvernement, ce qui veut dire que les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir, ou qui devraient l'être, autrement dit, cette coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, eh bien, pourraient avoir un avantage. Ils partent favoris dans cette élection.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont décidé de casser le jeu, c'est-à-dire justement, surtout le leader de la Ligue, Matteo Salvini, qui avait avancé la candidature de ce ministre de l'économie qui était, disons-le, c'était un personnage tout à fait respectable d'ailleurs, mais qui a fondé sa carrière au cours des dernières 15 années sur un plan de sortie de l'euro. Hein. Alors la vraie question politique, au-delà des formes, c'est que ce gouvernement s'apprêtait à mettre en place une sortie de l'euro. Hein. Et le président de la République a jugé que ça allait au-delà des attributions de ce gouvernement, qu'il fallait au moins, vu qu'il n'y a pas eu de campagne électorale sur ce sujet, et donc ça serait fait, disons, de façon presque comme ça, presque cachée, non, sans que ça soit jamais explicité. Là, par contre, il va y avoir une campagne électorale qui va être centrée sur ça. Évidemment, les anti-européens sont bien partis parce qu'ils ont un argument quand même assez fort quand ils disent on ne peut pas tolérer d'interférence sur la composition du gouvernement de la part de l'Europe.
Peut-on imaginer une reconfiguration de la coalition puisque à l'origine, l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue n'existait pas. Il y avait en revanche le parti de Silvio Berlusconi dans le jeu. Qu'est-ce qui pourrait être imaginable? Est-ce qu'on peut par exemple considérer que le mouvement 5 étoiles ou bien la Ligue va tirer avantage de cette nouvelle situation politique en Italie, Giuliano D'Ampoli?
Oui, ce qu'ils vont essayer de faire, ça va être d'établir une hégémonie sur la coalition de droite. Hein, donc je pense qu'ils ne vont pas rompre l'alliance qu'ils avaient avec Berlusconi au cours des dernières élections. Mais ce sera bien évidemment le partenaire majoritaire, celui qui aura la position la plus forte. Et on sait aujourd'hui, on ne le savait pas avant les dernières élections, mais on sait que c'est eux qui prennent plus de votes et plus de consensus. Berlusconi est quand même en train de beaucoup fléchir. C'était lui le leader de la coalition dans les années précédentes. Ce n'est plus du tout le cas. Et puis, de facto, c'est-à-dire pas dans une alliance formelle, mais ce sera quand même une alliance substantielle, ils vont probablement courir sur une plateforme qui sera assez semblable et assez convergente avec celle du mouvement 5 étoiles, qui est d'ailleurs en train de relancer dans ces heures, et ça a été une nuit quand même assez dramatique en Italie, et la position du mouvement 5 étoiles, aujourd'hui, elle est encore plus radicale que celle de la Ligue, parce qu'elle propose une procédure de mise en accusation du président de la République.
Justement, parce qu'on ouais. On va reparler du mouvement 5 étoiles, vous lui avez consacré un livre extrêmement intéressant, malheureusement pas encore traduit en français, La Rabbia et dites-moi la suite.
Oui, la
rage et l'algorithme. On reparlera de votre conception du mouvement 5 étoiles qui est effectivement assez intéressante et assez peu entendue en France. Mais si d'aventure le peuple italien décidait par exemple de donner à nouveau la majorité au mouvement 5 étoiles avec ou sans la Ligue ou en tout cas une coalition anti-européenne, est-ce qu'il faudrait que le président italien Sergio Mattarella se retire?
Non. Non, ça je ne crois pas parce que le président est resté à l'intérieur de ses prérogatives constitutionnelles. On a une tradition en Italie du rôle du président de la République qui n'est pas très important dans les phases de clarté politique, mais devient par contre très fort dans les phases d'incertitude et de crise politique. On se rappelle quand même qu'en 2011, face à la crise financière qui a mis en difficulté le gouvernement Berlusconi, ça a été Napolitano qui a remplacé Berlusconi par Monti, qui a pratiquement créé Monti de toutes pièces et son gouvernement. Donc il y a des exemples récents d'interventions politiques quand même très fortes de la part du président. Je pense que ça a été le cas hier. Effectivement, il a fait un geste très fort, mais il reste tout à fait à l'intérieur de ses attributions constitutionnelles. Le système italien qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale est un système qui prévoit beaucoup de contre-pouvoirs, beaucoup de mécanismes justement pour empêcher qu'il y ait une majorité qui prend le pouvoir et qui prend tout.
Hein. Mais alors, question candide, si d'aventure la nouvelle majorité était identique à celle qui est sortie des urnes, si d'aventure on proposait à nouveau Paolo Savona, donc cet eurosceptique, cet économiste eurosceptique au portefeuille de l'économie et des finances, est-ce que dans ce cas-là, Sergio Mattarella pourrait à nouveau le refuser?
Bon, là, effectivement, on est toujours sur le terrain des hypothèses. À mon avis, ce serait effectivement beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, dans ce cas, il n'y a pas eu de campagne en ce sens. La Ligue et le mouvement 5 étoiles n'ont pas du tout fait campagne électorale sur la sortie de l'euro. Donc, je crois que le président était effectivement dans la plénitude de ses attributions en disant « Mais écoutez, on ne va pas faire ça comme ça. Hein, » Mais si, d'aventure, comme vous le dites, ces forces récoltaient à nouveau une majorité au cours des prochaines élections, et si il faisait campagne de façon explicite en proposant Paolo Savona, cet homme, comme futur ministre de l'économie, à ce moment-là, effectivement, ça deviendrait, s'ils obtenaient une majorité, plus difficile de
une campagne sur le mode d'un Brexit à l'italienne.
Oui, mais je ne sais pas. Franchement, ce qui m'inquiète, c'est qu'en connaissant un peu l'Italie, je n'ai pas l'impression qu'ils vont faire campagne sur ça. C'est-à-dire, à mon avis, ils vont faire campagne, comme vous le disiez avant, sur « on ne peut pas accepter d'interférence, nous sommes maîtres chez nous », etc. D'ailleurs, c'est des campagnes qu'on connaît, disons, dans beaucoup d'autres pays européens et au-delà de l'Europe aussi. Mais je ne crois pas qu'ils ont intérêt à faire une campagne « on sort de l'euro ». Donc, en plus,
pourquoi
ils seront divisés parce qu'ils ne récolteraient quand même peut-être pas une majorité sur une option nette. On reste dans l'euro, on sort de l'euro.
Parce qu'on a quand même l'impression, Giuliano Daempoli, oui, que quand le peuple dit non en matière européenne, c'est le oui qui l'emporte. En tout cas, c'est cela que peut donner, en tout cas peut être interprétée la décision de Sergio Mattarella, puisque Paolo Savona appartenait à cette coalition. De manière évidente, il était adoubé par cette coalition et on refuse un gouvernement qui porterait donc ces idées-là au pouvoir.
Oui, mais justement, il faut voir comment ça s'est fait. Ça s'est fait sur la base, d'abord, ces deux partis ne formaient pas une coalition aux élections précédentes. Ils étaient séparés, ils étaient l'un contre l'autre. Deuxièmement, aucun de ces deux partis n'a fait une campagne ni sur l'Europe, ni sur l'euro, justement, parce qu'en plus, ils avaient observé le précédent de Marine Le Pen en France, qui, comme vous le savez, est une alliée de la Ligue très, très, très proche, et ils ont estimé, à mon avis correctement, qu'ils auraient perdu des votes s'ils avaient fait campagne pour la sortie de l'euro, qu'ils n'auraient pas eu une majorité. Donc ni l'un ni l'autre ne l'ont fait.
Ils ne sont pas politiquement suicidaires. Si d'aventure ils étaient persuadés que les Italiens ne voulaient pas de la sortie de l'euro, Paolo Savona n'aurait pas été choisi au portefeuille de l'économie et des finances.
C'est, à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, ils ont fait leur programme. Bon, d'abord, il y a une navigation à vue. Hein, c'est-à-dire, la Ligue est franchement souverainiste, anti-européenne, pour la sortie de l'euro de façon assez explicite. Le mouvement 5 étoiles, pas du tout, justement. On en parlera peut-être, c'est un algorithme. C'est presque un instrument de marketing. Ils sont très, 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 très mobiles et très opportunistes sur leur prise de position.
Oui, vous l'expliquez bien dans votre livre, voilà. Et on en reparlera dans quelques instants.
Mais ils ont fait un programme, ils ont vu qu'en additionnant toutes les promesses qu'ils avaient faites de réduction des impôts d'un côté, d'augmentation de toutes sortes de subventions de l'autre, la note de ce programme était autour de entre 100 et 150 milliards d'euros, qui est un chiffre qui n'est pas soutenable par l'Italie dans les conditions présentes d'appartenance à l'euro, de respect des contraintes budgétaires et tout cela. Et donc, une fois arrivé au pouvoir de façon quand même pas linéaire, hein, c'était pas prévu comme ça, c'était pas prévu par eux non plus comme ça, les coalitions au départ étaient différentes, ils ont quand même préféré prendre le risque d'une possible sortie de l'euro plutôt que de voir renier leur promesse de campagne. Bon, c'est quand même un parcours très, très erratique, enfin, pas vraiment planifié, à mon avis.
Hein. Est-ce que Savona, donc cet homme qui aurait dû devenir ministre de l'économie, est-ce qu'il serait allé jusqu'au bout ?
Oui, je pense que lui, qui est un homme d'ailleurs beaucoup plus solide que, parce que vous savez, Ligue 5 étoiles, ils n'ont pas vraiment de classe dirigeante. En plus, 5 étoiles, ils théorisent que la personne de la rue peut faire le ministre de l'économie beaucoup mieux qu'un quelconque ministre de l'économie, disons, qui soit en place. Là, par contre, c'était une personnalité avec un CV très impressionnant, qui a déjà été ministre à la Banque d'Italie, donc beaucoup de responsabilités, beaucoup de crédibilité aussi, mais qui, justement, depuis 15 ans, théorise et même étudie de façon pratique les façons pour sortir de l'euro. Et donc, la théorie de sortir de l'euro, c'est exactement ce qui allait se passer, c'est-à-dire... On fait ça sans le dire, on brise les contraintes budgétaires, on accepte qu'il y ait effectivement à ce moment-là un mouvement financier.
Est-on sûr que les conséquences auraient été mauvaises pour l'Italie si cet homme les a théorisées, s'il y a réfléchi si longuement?
Premièrement, il est pratiquement seul, c'est-à-dire que le 99% des...
Bon, parfois, un homme seul a raison tous.
Parfois, ça peut arriver. Mais là, la question n'est pas tout à fait là. C'est-à-dire que la question, c'est vraiment qu'il n'y a pas eu une véritable... il n'y a pas eu de débat et de décision politique sur ce sujet. Les électeurs ne se sont pas prononcés sur ce sujet. Donc, c'est un thème quand même crucial pour le futur de l'Italie. On a eu un emballement des marchés financiers au cours des derniers jours qui augmente immédiatement le coût des prêts bancaires et des citoyens qui ont des dettes avec les banques. Comment est-ce que vous appelez ça, le mutuo? Et donc, le président a effectivement estimé qu'il fallait un moment de plus de réflexion et de débat sur ce thème.
On vous retrouve dans une vingtaine de minutes parce qu'on va continuer à évoquer la situation politique italienne et européenne. Vous serez rejoint par le géographe Sylvain Kahn et vous allez nous expliquer ce qui est contenu dans votre livre. Rappelez-moi le titre de votre livre, L'Arabia.
L'Arabia et l'algorithme.
La rage et l'algorithme. Vous expliquez très bien dans cet ouvrage en quoi le mouvement 5 étoiles est un mouvement d'un type nouveau qui est en réalité un mouvement politique utilisé, instrumentalisé par une société informatique qui possède aujourd'hui une gigantesque base de données et comment finalement ce mouvement suit l'opinion telle qu'il la mesure. Pourquoi en fait on a affaire à un phénomène radicalement nouveau et l'Italie pourrait être un laboratoire. Laboratoire de quoi? Eh bien, on en discutera dans quelques instants. Restez avec nous.